bienvenue sur les ondes du DFM Radio dans l'émission Les mots des livres. Nous sommes en direct jusqu'à 19h, je vais y arriver, avec Yenaël Dojon pour le Jardin de Georges Louis. Nous étions ensemble la semaine dernière, mais vous aviez peut-être entendu des petits soucis techniques. Eh bien, on retrouve l'autrice d'ici quelques instants, puis nous évoquerons deux magnifiques albums pour la jeunesse. Merci encore à vous pour votre écoute. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous retrouvons Guénaël Dojon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation, car lundi dernier, on a eu des petits soucis techniques pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule Le Jardin de Georges, qui n'est pas une suite de Là-bas, votre premier roman, bien que on retourne sur cette île que vous connaissez parfaitement à travers le travail prodigieux d'un homme, ce fameux Georges, Georges de La Salle, qui a fait sur cette petite île du Finistère un jardin extraordinaire, exotique. Alors la semaine dernière, vous nous avez expliqué la genèse de ce projet, car habitante de cette île, on vous a fait découvrir ce jardin et vous vous êtes penchée un peu plus sur ses origines.
Oui, tout à fait. En fait, moi je suis partie vivre, j'habitais à Paris et je suis partie vivre sur cette île qui s'appelle donc l'île de Bas, qui se situe au nord de Roscoff, dans le nord Finistère. Cette île, c'est un jardin en soi, parce que c'est un jardin, bien que ce soit un lieu quand même où il y ait beaucoup de vent et où la végétation ne pousse pas forcément très facilement, ce qui rend ce jardin exotique d'autant plus étonnant. Mais disons que pendant plusieurs années, lorsque j'habitais sur l'île, l'île constitue un véritable jardin pour moi, et j'allais pas forcément à l'est de l'île où il y a ce jardin, donc qui s'appelle le jardin de Georges de La Salle. J'ai mis un petit peu de temps à le connaître, et j'ai rencontré ce lieu parce que j'étais journaliste à l'époque, et il y a eu l'exhumation des ossements de Georges de La Salle, et donc on m'a commandé un papier sur cette exhumation des ossements. Et là, lorsque je suis rentrée dans le jardin, c'était au mois d'avril, le jardin n'était pas encore ouvert au public, il y avait une sorte de petite brume comme ça, et c'était un moment très solennel où les membres de l'association des amis de Georges de La Salle, qui sont des gens qui ont réhabilité ce jardin dans les années 80, procédaient à cette exhumation. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très très étonnant autour de ce moment-là. Et je me suis intéressée d'abord au jardin qui, au fil des années et des présences de ma présence sur l'île, est devenu absolument vital pour moi. C'est devenu une sorte de poumon, un vrai lieu de respiration, parce que c'est un lieu où il y a des, comme ça, mais vraiment des 2700, je crois, plantes exotiques du monde entier qui sont réunies là. Et c'est un endroit de beauté, de douceur, de voyage. Donc j'ai eu besoin de plus en plus de ce lieu. Et parallèlement à ça, les membres de l'association des amis de Georges de La Salle m'ont confié les archives de ce jardin. Et dans ces archives, j'ai découvert l'histoire étonnante, romanesque, fantastique, du créateur du jardin, donc Georges de La Salle, qui était venu sur cette île en 1897, et qui, à l'est de l'île, sur une lande de sable battue par les vents, a décidé de construire, de créer, d'imaginer, puis créer un jardin magnifique, et un jardin, surtout un jardin exotique.
Et ce qui est formidable, c'est que donc vous nous contez, c'est un roman historique, l'histoire extraordinaire de cet homme et des rencontres qu'il a eues.
Alors effectivement, Georges de La Salle, c'est un parcours très particulier, c'est-à-dire qu'il est parisien, terrain, il est assureur, c'est un homme qui peignait, donc il avait quand même une vraie attirance pour l'artiste. Et il avait ce goût de l'observation, de la peinture, mais très certainement par sécurité, puis aussi parce qu'il a vécu deux deuils assez terribles de sa mère et de sa petite sœur. Il y avait ce mal du siècle à l'époque qui était la tuberculose. Il s'est retrouvé assez seul et donc il a choisi les assurances. Et il travaillait près de la gare Saint-Lazare, et près de la gare Saint-Lazare, il y a une brasserie qui s'appelle la Brasserie Mollard, qui était un haut lieu de la vie parisienne à l'époque. Et dans cette brasserie, où il allait déjeuner le midi, il rencontre une femme qui va s'appeler Mélanie de Villemorin, donc qui va devenir la femme de Philippe de Villemorin. Et effectivement, la famille Villemorin, à l'époque, c'est vraiment une grande, grande, grande famille, une dynastie de botanistes, d'herboristes. Ce sont des Philippe de Villemorin, c'est lui qui a créé.
On a un petit souci technique, on retrouve notre invité d'ici un instant, tout de suite.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat?
Ça s'appelait rock and roll. sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3, que tu m'aimais. 4, 5, 6, amis. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues.
1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when.
Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour du pouvoir, pour de l'or. Chacun sa passion de voiler. On déplore pour ceux qui s'ignorent.
Moi quand j'entends l'intro de Hey Joe, oh, je comprends mieux qu'aucun mot.
Rien ne me met dans le même état que la voix d'Aretha. Ça s'appelait rock'n'roll, ça me rend une folle. Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien mais que ça sonne.
Toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres jusqu'à 19h. Alors on enchaîne avec la littérature jeunesse et le magnifique album Tous les bateaux ne prennent pas la mer de Germano Zullo et Albertine. C'est un album paru aux éditions La Joie de lire. Alors déjà le thème est assez innovant, assez original. C'est l'histoire d'une famille dont le papa est en prison. Et page après page, on va découvrir en fait la correspondance du papa vers sa femme et ses enfants et vice versa, et comprendre au fur et à mesure que les années passent, il va y avoir une vingtaine d'années hein, qui d'incarcération pour le papa, et du coup comment ces relations peuvent à la fois se nouer, au contraire se distendre. C'est magnifiquement bien écrit, magnifiquement bien dessiné. Il est aussi question de bateau, car le papa en prison a la possibilité de faire des maquettes de bateaux qu'il envoie à son fils et à sa fille, qui ont à l'époque un peu moins de 10 ans. évidemment l'un et l'autre ne reçoivent pas cela de la même manière, et c'est ce qui est formidable, parce qu'on est bouleversé par cette famille éclatée suite donc à l'incarcération du papa envoyé en prison pour braquage de banque, et ces liens fragilisés qui vont être comme ça décrits lettre après lettre, et cette correspondance qui évoque donc à la fois les bateaux, le tour du monde et les relations qui peuvent parfois revenir, tel le bateau du marin qui revient. C'est merveilleusement bien fait, et ça évoque aussi la complexité des relations entre parents et enfants lorsqu'arrive ce type d'événement, et combien aussi la liberté et peut être prise d'une manière différente, notamment donc encore avec cette image du bateau. Tous les bateaux ne prennent pas la mer, c'est déjà le titre, hein. Un voyage. Germano Zullo est écrivain et poète, et Albertine est une artiste suisse qui a déjà reçu le prix Hans Christian Andersen pour son œuvre pour la jeunesse en mai 2020, et c'est elle qui nous donne ces magnifiques dessins. Ils ont déjà travaillé à eux deux, ils ont déjà reçu des prix, notamment le prix Sorcière pour Les Oiseaux en 2010, ou encore le premier prix de la Foire de Bologne pour Mon Tout Petit. Si vous voulez en savoir plus sur cet album, sur ces artistes, n'hésitez pas à aller sur le site lajoiedelire.ch, la joie de lire tout attaché. Ah, j'ai pas parlé du travail de l'artiste, hein. Illustratrice, c'est à la gouache, et c'est magnifique.
T'as jamais vu une femme qui se bat?
FM Radio, le média valdoisien.
et vous êtes toujours à l'écoute des mots des livres sur EDFM Radio. On parle littérature jeunesse avec un album qui s'appelle The Fantastic Train. Partez en voyage pour apprendre l'anglais. The Fantastic Train, que l'on pourrait traduire par le train fantastique. C'est un album musical avec une version en ligne grâce au QR code, qui est inclus dans l'ouvrage. C'est paru aux éditions La Montagne Secrète. Les chansons sont de Sunflowers et les illustrations de Maud Legrand. Alors d'abord, un mot sur ces fameuses chansons. Ces chansons qui devraient beaucoup plaire aux petits et aux grands, car on voyage pas mal. Tout d'abord, comme son nom l'indique, ce Fantastic Train, les questions de train avec Name Train. Ensuite, How do you feel? Qu'on peut traduire par Comment te sens-tu? Good morning, how are you? Bon matin, comment vas-tu? What's the weather like today? Quel temps fait-il aujourd'hui? On va l'écouter d'ailleurs. Une question des saisons, des mots magiques, de top là, de tout ce dont j'ai besoin. Au revoir papy, en goodbye butterfly, fait de beaux rêves. Bref, le duo Sunflowers, qui est formé des auteurs, compositeurs, interprètes Aaron et Julia Riss, font ici un magnifique travail qui nous invite vraiment à accompagner les enfants à chanter. Alors vous avez évidemment à l'intérieur de l'ouvrage ces 12 mélodies qui sont à la fois écrites en anglais et avec la traduction en français. Ainsi, on apprend des mots un peu tous les jours, on comprend le sens de ces chansons. C'est un vrai voyage chez nos amis anglais, et on peut ainsi découvrir les illustrations au dessin de Maud Legrand, à qui l'on doit déjà de nombreux ouvrages, et qui ici au crayon nous livre un vrai voyage en compagnie des chansons. On monte vraiment dans le train et on découvre tous ces univers très colorés, très festifs, où chaque personnage a l'air de passer un merveilleux moment en compagnie donc de ces comptines, chansons, mélodies anglaises. Alors comme promis, on va écouter une première chanson. Ça s'appelle What the Weather Like, qu'on peut traduire Quel temps fait-il, et que vous pouvez d'ailleurs retrouver en allant sur le site La Montagne Secrète. Alors on va y arriver. Voilà. Alors un instant, évidemment, quand on veut, ça marche pas toujours quand on veut, hein, c'est les aléas du direct.
Like today, what's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today?
Vous l'avez compris, hein, ce sont des chansons très mélodieuses avec des répétitions. Donc l'enfant peut répéter plusieurs fois et ainsi se appréhender ces mots d'anglais. Comme je vous disais, à la fin de l'ouvrage, vous avez toutes les paroles ainsi que les traductions. On va écouter une deuxième. Pour terminer, une chanson au coucher.
What a beautiful
plein de douces mélodies qui vont accompagner petits et grands autour de l'anglais. Je rappelle, à la fin vous avez les traductions à la fin du livre. Tous les enregistrements sonores sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute en continu. Vous avez un QR code inclus dans l'ouvrage. Si vous voulez plus d'informations, vous avez le site internet des éditions La Montagne Secrète, où vous allez retrouver des extraits de l'ouvrage, lamontagnesecrete.com. C'est destiné aux enfants à partir de 3 ans. Ça vient de sortir. Ainsi, vous allez apprendre avec les petits l'anglais. Ils vont ainsi se familiariser à ces sonorités. Et vous avez passé un très bon moment. Vous avez entendu, c'est des mélodies très douces. Et même quand on ne connaît pas bien l'anglais, il y a les traductions et on comprend assez rapidement le sens de ces douces chansons. Beside your bed, right beside your bed, sweet dreams, I'll see you in the morning. Give me a hug. Et sachez qu'il existe un autre ouvrage, Beautiful Day, toujours des mêmes auteurs, le duo Sunflowers et l'illustratrice Maud Legrand. En attendant, je vous invite à aller sur le site, je le rappelle, des éditions La Montagne Secrète, lamontagnesecrete.com, le titre The Fantastic Train, et la même collection dont je vous disais, A Beautiful Day, des livres, des albums musicaux à ne pas manquer.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Allez, on va rendre hommage à une grande du répertoire français, une grande comédienne, Brigitte Bardot, qui vient de fêter ses 90 ans.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Yeah.
FM Radio, le média valdoisien.
Alors, vous avez peut-être été là depuis le début de l'émission. Désolée encore pour ce petit problème technique avec Gaënaël Dojon. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance. C'était une interview enregistrée, donc on va essayer de le repasser dès maintenant en espérant qu'il soit ce coup-ci en intégralité. Et nous retrouvons Gaënaël Dojon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation, car lundi dernier, on a eu des petits soucis techniques pour parler de votre dernier roman. Il s'intitule Le Jardin de Georges, qui n'est pas une suite de Là-bas, votre premier roman, bien que on retourne sur cette île que vous connaissez parfaitement à travers le travail prodigieux d'un homme, ce fameux Georges, Georges de La Celle, qui a fait sur cette petite île du Finistère un jardin extraordinaire, exotique. Alors, la semaine dernière, vous nous avez expliqué la genèse de ce projet, car habitante de cette île, on vous a fait découvrir ce jardin et vous vous êtes penchée un peu plus sur ses origines.
Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis partie vivre, j'habitais à Paris et je suis partie vivre sur cette île qui s'appelle donc l'île de Bas, qui se situe au nord de Roscoff, dans le nord Finistère. Cette île, c'est un jardin en soi, parce que c'est un jardin, bien que ce soit un lieu quand même où il y ait beaucoup de vent et où la végétation ne pousse pas forcément très facilement, ce qui rend ce jardin exotique d'autant plus étonnant. Mais disons que pendant plusieurs années, lorsque j'habitais sur l'île, l'île constituait un véritable jardin pour moi, et j'allais pas forcément à l'est de l'île où il y a ce jardin, donc qui s'appelle le jardin de Georges de La Celle. J'ai mis un petit peu de temps à le connaître, et j'ai rencontré ce lieu parce que j'étais journaliste à l'époque, et il y a eu l'exhumation des ossements de Georges de La Celle, et donc on m'a commandé un papier sur cette exhumation des ossements. Et là, lorsque je suis rentrée dans le jardin, c'était au mois d'avril, le jardin n'était pas encore ouvert au public, il y avait une sorte de petite brume comme ça, et c'était un moment très solennel où les membres de l'association des amis de Georges de La Celle, qui sont des gens qui ont réhabilité ce jardin dans les années 80, procédaient à cette exhumation. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très très étonnant autour de ce moment-là. Et je me suis intéressée à d'abord au jardin qui, au fil des années et des présences de ma présence sur l'île, est devenu absolument vital pour moi. C'est devenu une sorte de poumon, un vrai lieu de respiration, parce que c'est un lieu où il y a des, comme ça, mais vraiment des 2700, je crois, plantes exotiques du monde entier qui sont réunies là. Et c'est un endroit de beauté, de douceur, de voyage. Donc j'ai eu besoin de plus en plus de ce lieu. Et parallèlement à ça, les membres de l'association des amis de Georges de La Celle m'ont confié les archives de ce jardin. Et dans ces archives, j'ai découvert l'histoire étonnante, romanesque, fantastique, du créateur du jardin, donc Georges de La Celle, qui était venu sur cette île en 1897, et qui, à l'est de l'île, sur une lande de sable battue par les vents, a décidé de construire, de créer, d'imaginer, puis créer, un jardin magnifique, et un jardin, surtout un jardin exotique.
Et ce qui est formidable, c'est que donc vous nous contez, c'est un roman historique, l'histoire extraordinaire de cet homme et des rencontres qu'il a eues.
Alors effectivement, Georges de La Celle, c'est un parcours très particulier, c'est-à-dire qu'il est parisien, il est assureur, c'est un homme qui peignait, donc il avait quand même une vraie attirance pour l'artiste. Et il avait ce goût de l'observation, de la peinture, très certainement par sécurité, puis aussi parce qu'il a vécu deux deuils assez terribles de sa mère et de sa petite sœur. Il y avait ce mal du siècle à l'époque qui était la tuberculose. Il s'est retrouvé assez seul et donc il a choisi les assurances. Et il travaillait près de la gare Saint-Lazare, et près de la gare Saint-Lazare, il y a une brasserie qui s'appelle la Brasserie Mollard, qui était un haut lieu de la vie parisienne à l'époque. Et dans cette brasserie, où il allait déjeuner le midi, il rencontre une femme qui s'appelle Mélanie, qui va s'appeler Mélanie de Villemorin, donc qui va devenir la femme de Philippe de Villemorin. Et effectivement, la famille Villemorin, à l'époque, c'est vraiment une grande, grande, grande famille, une dynastie de botanistes, d'herboristes. Ce sont Philippe de Villemorin, c'est lui qui a créé toute l'hybridation des iris. Ce sont des gens qui sont les premiers à commercialiser les graines, qui vont dans toutes les expositions universelles et qui ont un savoir immense sur la botanique. Et Georges de Vassel se retrouve en amateur plongé dans le monde par le biais de son amitié avec Mélanie Villemorin. Il se trouve plongé dans ce monde. Il y a aussi un homme qui s'appelle Jean Thaddée Dibowski, qui est le directeur du jardin d'essai de Nogent-sur-Marne. Et par leur biais, il va découvrir le monde de la botanique, s'y intéresser, s'y passionner. Et lorsqu'il met le pied sur l'île de Bas en juillet 1897, il tombe amoureux de cette géographie et il décide donc en décembre 1897 d'acquérir cette lande de sable, mais comme je vous disais, qui était vraiment le pire endroit pour créer un jardin, parce qu'il y avait le vent, parce qu'il y avait des embruns, parce qu'il y avait le sable. Et avec l'aide d'Evelyne Morin et l'aide de Jean Thaddée Dibowski, il met des décennies à construire et à créer son propre royaume, qui est ce jardin.
Et ce qui est formidable, c'est que grâce à sa ténacité, il va réussir. On voit par exemple page 100, vous dites « Tandis que Georges se heurte aux difficultés, les plantes, elles, s'épanouissent, se multiplient, exultent, frissonnent. Elles jaillissent d'un sol inculte comme un poème sans défaut d'une stérile douleur », écrit-il. Cette terre transmuée, soumise et féconde, ce biotope qui l'oblige et force à devenir, évolue et mûrit avec lui. Car on peut le dire, le jardin va lui sauver la vie.
Va lui complètement lui sauver la vie, parce que en fait jusqu'en 1918 il reste assureur, il reste à Paris, il fait des allers-retours entre l'île de Bas et Paris. Il faut savoir qu'à l'époque c'était Paris-Roscoff, c'était 17 heures de train. Après, pour aller sur l'île, c'était des bateaux à voile, c'était des sloops, il y en avait un seul par jour, donc tout ça était une sorte d'épopée à chaque fois. Et sur l'île, il comprend très rapidement qu'évidemment il va falloir qu'il protège les plantes des vents, et donc il plante une première barrière de pins qui, dès 1901, est complètement balayée par ce qu'on a appelé la tempête du siècle. Mmh. Et avec l'aide des Villemorin et avec l'aide au départ des habitants de l'île, il construit, il creuse en fait dans le sable une sorte de palmeraie qui va protéger les végétaux des vents. Mais tout ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il a aussi, si vous voulez, il arrive sur une île qui est une île agricole. C'est une île où la terre, une île très pauvre, où la terre est faite pour se nourrir. Et d'un seul coup, pour les Iliens, de voir arriver un homme, un Parisien, qui s'empare comme ça de leur terre, non pas pour se nourrir, mais pour faire un jardin d'agrément, ça crée des incompréhensions, voire des frictions. Et donc, il se retrouve un petit peu à avoir l'île contre lui. Du coup, il va être obligé d'aller chercher aussi des aides extérieures. Et disons que jusqu'en 1918, il œuvre à creuser, à construire cette barrière de pins, à planter des espèces venues d'ailleurs. Parce que ce qui moi aussi m'a beaucoup intéressé, si vous voulez, c'est qu'un jardin, c'est un enclos pour préserver les meilleurs. Et à l'époque de Georges Vassel, les meilleurs, c'est tout ce qui est à l'autre bout du monde. C'est l'époque des colonies. À cette époque-là, la France est une puissance coloniale. Et donc, les plantes, il les fait venir d'Afrique, du Mexique, d'Asie, de Madagascar, enfin de partout, de par le monde. Donc, il œuvre à ça, et en 1918, il apprend que comme sa mère et comme sa sœur, il a la tuberculose. Et en un mois, il démissionne de son travail d'assureur, il vend sa maison et il vient s'installer sur l'île. Il a alors 57 ans. Et là, c'est une mutation totale parce qu'il passe d'une vie de citadin à une vie où il est plongé du matin jusqu'au soir dans ces 2 hectares de terre qu'il entretient seul. Et il se dit qu'il va mourir et qu'il... Il n'a qu'une, évidemment, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est d'être plongé en son jardin. Et en fait, il va mourir en 1944, donc il va vivre encore des décennies, et très certainement, hein, j'en suis persuadée, il est nourri, sauvé par l'amour de son jardin, et puis aussi par cette terre qu'il respire, et puis par cette passion qui le transforme d'amateur jardinier en un véritable professionnel, voire un pionnier de la botanique en Bretagne.
Alors justement, vous le rappelez, il est mort il y a 80 ans, notre ami Georges Lassalle, et pourtant, son jardin l'a survécu malgré, on va pas y revenir, on va laisser le lecteur découvrir de nombreuses péripéties, et encore une fois, il y a eu cette tempête de l'an passé qui est venu nous rappeler que la nature parfois est impitoyable.
Ben exactement, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. Le jardin a subi mille et une tempêtes. Il a juste après la mort de Georges Lassalle, pendant près de 40 ans, il a été abandonné. Donc dans des espèces que Georges avait pu planter, il y en a énormément qui ont été perdues. Et puis par un miracle, il a été redécouvert et puis réhabilité. Et à nouveau, il a subi des tempêtes. Et c'est une espèce de long cycle comme ça de vie, de mort et de vie. Et jusqu'en novembre dernier, parce qu'il y a eu la tempête Sioran. Donc la tempête Sioran, elle a vraiment traversé le jardin. Il y a eu des vents jusqu'à 203 km/h. Je crois qu'ils n'avaient jamais vécu ça. Et les pins, les cyprès de Lambert que Georges avait ramenés de Monterey en Californie et qui avaient tenu depuis jusque-là, ont été décimés par cette tempête. Le jardin a été détruit à 70%. Il fait partie du loto du patrimoine parce qu'il a aujourd'hui absolument besoin d'aide et de soutien. Moi, je suis très heureuse que ce livre sorte à un moment où le jardin a besoin qu'on parle de lui, a besoin de soutien. Les lecteurs disent que souvent ils ont envie après d'aller voir ce jardin. Et il faut y aller parce que c'est vrai qu'il a un peu un nouveau visage, mais il est aussi encore extrêmement émouvant avec ce nouveau visage parce que voilà, aujourd'hui il y a d'autres jardiniers qui s'en occupent. Il est pérenne, c'est une propriété du Conservatoire du Littoral. Il va continuer d'exister et c'est là où c'est toute l'humilité des hommes, c'est-à-dire que c'est une temporalité, la temporalité du végétal, c'est pas la temporalité de nous les hommes. C'est vrai que les plantes et les arbres qu'on met en terre, c'est peut-être nous, c'est pas notre génération à nous qui vont voir leur splendeur, mais c'est celle d'après. On construit pour les générations futures. C'est ce que Georges a fait pour nous et c'était aussi mon hommage à travers ces livres et c'est ce que font aujourd'hui les jardiniers de l'île.
Et c'est ce que vous nous proposez de découvrir. On le rappelle, le titre, Le Jardin de Georges, un magnifique ouvrage de vous, Guénoëlle Daujonde. C'est votre deuxième roman et qui nous invite à aller parcourir ce lieu incroyable. On rappelle, hein, Georges Lassalle, c'est un peu un écolo avant l'heure, en plantant dans un lieu aussi stérile, aussi hostile et qui a réussi grâce à sa ténacité, à son travail et à l'aide de fabuleux amis, à faire de cette petite lande un jardin exotique. Merci à vous, Guénoëlle Daujon. On peut vous suivre, je crois, sur les réseaux sociaux. Vous nous en aviez parlé. Il suffit de cliquer votre nom sur sur internet et on vous retrouve. On pourra peut-être vous retrouver lors de rencontres, dédicaces.
Le 10 octobre à la librairie L'Art de la Joie, rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris, à 19h, il y a une rencontre et une dédicace à Paris. Et sinon, il y a des rencontres, mais en Bretagne. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs viendront jusqu'en Bretagne. Mais à Paris, c'est le 10 octobre à l'Art de la Joie, la librairie L'Art de la Joie, rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement de Paris.
Eh bien, c'est noté. Merci encore, Guénaëlle Daujon. Et on rappelle le titre, Le Jardin de Georges, un très beau roman historique paru aux éditions Intervalle. Merci encore. À bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup pour votre soutien. Merci bien.
Merci. Au revoir.
IDFM Radio, le média valdoisien.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait les ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur boba? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la Porzani et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit les grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur avec ses chants écrits. Et des jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir de ces angéliques qu'on suit jusqu'à la République. Je trouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin de ciel, d'où me parvient comme un appel toute la rumeur.
It's close to me. land. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna do it tonight.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et avant de se quitter en musique, je vous rappelle que nous étions avec Guénaëlle Dojon, dont on avait enregistré l'interview pour son très beau livre Le Jardin de Georges. On a aussi évoqué deux albums jeunesse, Tous les bateaux ne prennent pas la mer de Germano Zullo et Albertine, par aux éditions La Joie de Lire, et un album musical The Fantastic Train, Partez en voyage pour apprendre l'anglais de Sunflowers et Maud Legrand, à retrouver aux éditions La Montagne Secrète. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes d'IDFM Radio. N'hésitez pas à aller sur le site idfm98.fr et nous on se quitte en musique. À la semaine prochaine, au revoir.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice that you just beautiful wife. And isn't it ironic?